Bonsoir. Donc deux cours aujourd'hui. Tout d'abord, Le Corbusier et l'Inde. Le Corbusier en Inde, une relation qui dure pendant une quinzaine d'années, 15 ans assez strictement. Et puis ensuite, donc des zigzags qui le conduisent d'Europe en Inde et qui le ramènent en Europe. C'est une période intense de voyage aérien et d'observation aérienne. Et dans le même temps, parallèlement, entre 1950 et 1965, donc c'est cette deuxième période féconde de la création de Le Corbusier que j'ai présentée, dans le même temps, des zigzags autour de la Méditerranée, un tropisme méditerranéen qui le conduira à sa fin dans la mer ou au bord de la mer. Donc tout d'abord l'Inde. Alors de quoi s'agit-il? Le Corbusier n'avait pas guère de penchant pour l'Inde. Il n'avait guère manifesté d'intérêt pour l'Inde avant 1950. Il est contacté en 1950 par les envoyés du gouvernement du Pendjab. Le Pendjab, c'est un État indien qui vient d'être découpé par la partition de l'Inde en 1947 entre une partie pakistanaise et une partie indienne. Le problème, c'est que la capitale historique du Pendjab, Lahore, se trouve au Pakistan. Donc l'Union indienne, nouvellement créée, entend créer une capitale. Et c'est ce que l'administrateur Thapar et l'ingénieur Varma viennent confier à Le Corbusier. Après avoir fait d'autres tentatives, j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais simplement ici pointer la raison pour laquelle Le Corbusier arrive en Inde et il ne travaillera pas simplement, c'est ce que l'on va voir, sur cette nouvelle capitale de Chandigarh, ainsi nommée, car elle est établie à proximité sur un terrain qui est occupé par de nombreux villages, qui est loin d'être vide, et un sanctuaire dédié à la déesse Chandi, déesse de la guerre. Le propos de Nehru, et je reviendrai tout à l'heure plus précisément au plan de Chandigarh, le propos de Nehru est un propos très clair. Il s'agit que cette nouvelle ville soit une expression de la foi de la nation dans l'avenir et qu'elle reste aussi, c'est très important, car c'est ce qui légitime le recrutement d'un architecte moderne, il convient qu'elle reste, écrit Nehru, déclare Nehru au Times of India, il faut qu'elle soit affranchie des traditions du passé. Donc c'est une ville qui ne doit pas s'appuyer dans l'esprit de Nehru sur les traditions indiennes, d'ailleurs très complexes, très multiples. C'est une ville qui doit être une ville du XXe siècle. Alors, au passage, je vais revenir à Chandigarh plus loin, au passage, Le Corbusier travaille pour des industriels indiens dans une autre ville. Et en fait, son œuvre indienne, elle a deux dimensions. Elle a une dimension qui est celle de Chandigarh, le plan d'urbanisme, le Capitole et quelques autres bâtiments. Et elle a une autre dimension pour ce qui est des bâtiments plus intimistes qui naît au contact d'Ahmedabad, ville de l'État du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, au nord de Bombay, qui est une ville considérée en général, c'est le cliché, comme le Manchester indien, la capitale de l'industrie du textile, avec des industriels du textile qui ont de très grandes ambitions culturelles et architecturales, politiques aussi. En effet, tous ces industriels appartiennent à la caste des Jains, qui se considèrent comme ayant des devoirs moraux, voire nationaux envers l'Inde. Ce sont eux qui financent Gandhi, par exemple. Ils sont les premiers à soutenir Gandhi dans son combat pour l'indépendance. Ils s'intéressent beaucoup au design, à la qualité des produits qu'ils exportent et très tôt recrutent des architectes modernes pour construire leurs bâtiments. Ils confient par exemple un projet que vous voyez ici, non réalisé, à Frank Lloyd Wright pour le magasin présentant les produits de leurs usines de calicot. C'est le nom qu'on donne aux Indiennes, autre nom, aux tissus produits à Ahmedabad. Bon, ce projet de Wright ne sera pas. Par la suite, la communauté Jain, avec l'aide des Américains, commandera à Louis Kahn le fameux Indian Institute of Management, une grande école, un campus magnifique que Kahn construira à partir de la fin des années 50, surtout dans les années 60. Alors, pour le moment, c'est Le Corbusier qui reçoit des commandes auxquelles il répond, des commandes domestiques. Par exemple, la première maison, qui est la maison de la famille Sarabhai, qui est une famille d'industriels. Le Corbusier s'intéressait, avait séjourné à Ahmedabad, et il avait souligné, je reviens à mon thème du paysage ou des jardins, il avait souligné que l'on trouvait dans cette ville, donc conduite par une élite sensible à l'architecture et à l'art moderne, aussi un très beau paysage, une ville s'étendant, écrit-il, sous le couvert de beaux arbres qui couvrent d'ombre, très couverts. Le Corbusier connaissait bien cette architecture, notamment l'architecture de la fin de la colonisation anglaise, car il avait séjourné dans des maisons de la famille Sarabhai. Alors, il construit une maison qu'il faut situer par rapport aux projets contemporains, notamment Maison Jaoul, que j'ai déjà montré, et qui est une maison dont un des thèmes principaux est la protection vis-à-vis de la lumière solaire. Dans un pays, écrit-il, qui est aux prises avec un duo de déluges et de raies de soleil alternés. Propos très contextuel pour aujourd'hui, il note « Le confort, c'est le froid, c'est le courant d'air, c'est l'ombre. Et pourtant, le soleil doit pénétrer aux heures favorables, aux saisons utiles. » Alors, il va pour cela concevoir un système de nefs parallèles que vous voyez ici sur le plan, un système double constitué de nefs parcourues par des courants d'air des vents dominants et protégées par des brises soleil qui les prolongent vers l'extérieur. Donc un système, on a voulu voir dans Le Corbusier et pas mal de modernes des gens qui ne s'intéressaient absolument pas au climat, qui seraient totalement incapables de répondre aux sollicitations d'aujourd'hui, c'est loin d'être vrai. Les façades longitudinales, vous les voyez ici, sont orthogonales, contrairement à celles de Neuilly, des maisons Jaoul, avec des retombées en béton armé qui font office de protection solaire. Le programme doit permettre, et je vous épargne la lecture du plan dans le détail, doit permettre la cohabitation entre Madame Sarabhai, Manorama Sarabhai, et ses deux fils, pour qui deux appartements sont créés, notamment à l'étage, un appartement dont l'occupant peut descendre directement par un toboggan dans la piscine le matin. Très, très ingénieux. Un magnifique jardin, selon Le Corbusier, de gazon parfait et de fleurs et plantées. L'intérieur n'est pas cloisonné, donc c'est un intérieur très intéressant, fait de nefs parallèles mais non cloisonnées, et avec une certaine indétermination fonctionnelle qui est largement dérivée des haveli, des habitations traditionnelles indiennes. Le Corbusier crée aussi, pour séparer les espaces de réception des espaces privés, un espace inspiré d'une autre forme locale qui s'appelle le choke, qui est un système de ventilation courant au Gujarat. Il utilise les matériaux en ayant à l'esprit la simplicité d'un bâtiment d'Ahmedabad, qui est l'ashram de Gandhi, et affirme vouloir reprendre contact avec les matériaux, écrit-il, dignes et fondamentaux de l'architecture. Je cite, « La brique amie de l'homme, le béton brut amie lui aussi, c'est contre-intuitif, les enduits blancs amis de l'homme, la présence de couleurs intenses provocatrices de joie. » Mais dès la famille Sarabhai installée, Le Corbusier n'arrêtera pas de se plaindre, en particulier du traitement du jardin. Et c'est un cas intéressant dans lequel Le Corbusier essayait de prendre le pouvoir sur le jardin. Il lui reproche d'avoir gâché la beauté des voûtes cylindrées catalanes, vous voyez ça à droite, qui réclamaient le calme avec les grosses palettes des ventilateurs qui font « houhou » dans le plafond, vous imaginez. Il regrette que la piscine placée au pied du toboggan majestueux ait été réduite par une mère anxieuse, écrit-il, au rôle de bassin refroidisseur d'air conditionné. Quant au jardin, on peut le revoir aussi ici, il note dans son carnet « écrire à Manorama, à Sarabhai, qui en fait très bien entretenu cette maison, je me souviens l'avoir vue dans les années 90, elle était en parfait état, il écrit « Sa maison me dégoûte, fleurs, bordures, toits, vieux cailloux, pots de fleurs sculptés, petits palmiers, etc. La plaie de ses jardiniers. » Et il écrit en 56 à Pierre Jeanneret « Tu pourras voir chez les Sarabhai comment on abîme une maison avec des jardiniers et des bricoles superflues. » ce qui rappelle très fortement cette anecdote fameuse de Frank Lloyd Wright visitant une maison qu'il avait construite des décennies plus tard et disant au propriétaire « Mais qu'avez-vous fait à ma maison ?» et commençant à bouger les meubles tout autour. Un deuxième projet est mis à l'étude dans un climat qui n'est pas dénué de tensions avec les clients privés indiens. Il écrit en 1955 à sa confidente de toujours, sa mère, « Je m'attrape durant deux jours avec mes riches d'Ahmedabad qui, comme les riches en général, sont sans cœur et sans scrupules, incapables d'appréciation. Il les traite par ailleurs de philistins insolents. Et une des raisons de sa colère, c'est l'abandon d'un projet qu'il a fait pour le maire Chibambai, d'un projet de maison beaucoup plus complexe. Vous voyez ici, il en reste une maquette d'une maison plus complexe que Sarabai, qu'il aurait équipée d'un jardin suspendu. Il y voit, écrit-il, c'est assez malin, une coquille d'escargot entourée d'un dispositif à faire de l'ombre. Belle image. Et ajoute, dedans, on circule, on agit à sa guise, et l'air aussi circule, la maison ouverte au vent dominant. Le projet est malgré tout considéré comme inadapté aux conditions indiennes à cause des brises soleil auxquelles personne ne croit. Donc la maison, en fait, n'est pas construite. Il y a un troisième projet lancé parallèlement pour un cousin du maire Chimambai et réalisé. Projet sur lequel travaille un jeune architecte indien. Le Corbusier s'accompagne de jeunes architectes indiens et français. Français, c'est Verret. Indien, c'est Balkrishna Doshi, qui a eu le prix Pritzker l'année dernière. Le programme de cette maison comprend des pièces de réception et quatre chambres avec des vérandas pour dormir la nuit. Il est fort simple, en fait, alors que Le Corbusier le décrira comme, je cite, « éminemment personnel, compliqué, subtil ». Une fois de plus, la distribution typique du Haveli se retrouve avec une séquence de pièces qui est abritée sous un toit parasol, avec une promenade architecturale qui relie, on le voit ici, des plateformes, on le voit à gauche, reliées des plateformes destinées à des orchestres ou des salons. C'est une maison faite pour les fêtes, pour les réceptions. Et le volume du projet est réduit, et le premier propriétaire revend les dessins à Shodan, qui va l'habiter, et qui les met en œuvre sur un autre terrain. Donc c'est un bâtiment nomade. Il est inscrit dans l'environnement d'Ahmedabad, mais pas dans le terrain, il est transformé. Dans l'œuvre complète, le rédacteur de service, Willy Bösiger, écrira « Par bonheur, les projets indiens de Le Corbusier sont toujours dictés a priori par le soleil et les vents dominants qui sont constants par région de l'Inde. Le transfert de cette habitation sur un nouveau terrain se fit donc assez naturel. » Donc c'est un cas, contrairement à ce que je disais au début de ce cours sur les projets situés, c'est un cas de projet qui est situé de manière très, très floue. Alors, au sommet de l'édifice, et on y arrive là, vous le voyez à gauche, les chambres sont traitées comme des petites maisons abritées par un toit commun. Et ce qui est intéressant ici, c'est un passage continuel de la circulation, plus ou moins publique, au privé, avec une sorte de crescendo des espaces, on le voit ici, sur la coupe, des espaces intérieurs qui s'ouvrent de plus en plus quand on monte. Un jardin suspendu en haut, donc c'est une très belle méditation tardive à la fois sur la promenade architecturale et sur le plan libre. Béton comme seul matériau utilisé, vous voyez, très difficile de photographier l'intérieur. Richard Pear n'a pas pu le faire en dépit de deux ou trois voyages à Ahmedabad. Vous voyez une vue d'époque et des vues que j'ai réussi à faire donc en 91. Dans ses carnets, Le Corbusier note avoir donné à Shodan, je le cite, un palais, une maison fonctionnelle. Avec son argent et du béton brut et de la couleur, écrit-il, je lui ai donné l'ombre en été, le soleil en hiver, l'air circulant et frais à toute saison. Partout où lui et ses hôtes seront abrités, ils seront captivés, enchantés. C'est un château de la Loire, point d'interrogation, oui, pour un prince intelligent, donc très ambitieux et plutôt bien habité. Troisième grand bâtiment de Le Corbusier à Chandigarh, troisième bâtiment intéressant, c'est le palais des filateurs. Les filateurs, ce sont les industriels qui, auparavant, avaient imaginé de confier leur siège social et leur club, c'est un club à la manière des clubs coloniaux britanniques en Inde, à un autre architecte. Le Corbusier s'efforce de donner une qualité exemplaire au projet. Il l'écrit au secrétaire de Nehru en 1953. Il s'agit de créer un petit palais, une véritable démonstration d'architecture moderne dans le climat indien, qui représenterait une véritable image de l'architecture indienne. Ce projet est aussi mis au point par Doshi et il correspond à un très rigide découpage des usages, le rez-de-chaussée pour les employés, ici, le premier étage au bureau et aux salles de réunion, et le second étage qui a une hauteur double, que vous voyez ici, pour les réceptions et les manifestations diverses. Donc, si vous voulez, l'élite se trouve placée au-dessus des salariés, elle comprime un peu les salariés. Ces usages différenciés ne sont pas toujours perceptibles sur la façade, sur cette façade, c'est peut-être plus sur la façade de l'entrée, c'est plus perceptible sur la façade donnant sur la rivière. Et entre ces façades se déploie un plan libre avec des formes fluides. Vous voyez ici, par exemple, la forme de cette salle de conférence. En voici l'extérieur, abrité par le brise soleil, tout ça circule de manière très très fluide. Et vous voyez l'intérieur habillé de contreplaqué de cette salle sur la photo de Richard Pear. L'accès et la desserte des étages s'organisent donc selon une nouvelle version de la promenade architecturale, qui débute par cette longue rampe qui vient depuis la rue, qui se prolonge par un escalier extérieur et un double ascenseur intérieur. Et il y a un jeu sur les matériaux que vous voyez ici, les matériaux, le bois, le béton, la pierre de Delhi. Comme dans les villas, Le Corbusier insiste sur le fait que le bâtiment, on a l'impression qu'il découvre le climat à Ahmedabad, que le bâtiment est orienté selon les vents dominants et les brises soleil calculées selon la latitude d'Ahmedabad et la course solaire exacte. La rivière est sur laquelle donne le bâtiment, et c'est à mon avis c'était la chose la plus émouvante à l'origine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le rivage a été aménagé de manière particulièrement brutale. Mais la rivière, dans son perspective initiale, était ce que j'appellerais un paysage didactique, à l'image de celui des travaux des champs que les villas palladiennes étaient organisées pour contempler. Les villas palladiennes sur la terra ferma, c'était, vénitienne, c'était des sortes d'observatoires, de postes d'aiguillage au-dessus des terres que cultivaient les paysans. Et Le Corbusier commente ainsi cette photographie de Hervé. Je cite, la situation du bâtiment dans un jardin dominant le fleuve et le spectacle si pittoresque des teinturiers artisanaux lavant leurs cotonnades et les séchant sur le sable en compagnie des hérons, des vaches, des buffles, des ânes à demi immergés pour se tenir au frais était une invitation à ménager par l'architecture, vous regardez l'arrière-plan, par l'architecture aux différents niveaux du palais, des vues servant de cadre aux travaux quotidiens comme aux fêtes du soir et de la nuit. Vous voyez cette double idée des gentlemen indiens qui font la fête en regardant les teinturiers artisanaux. Le Corbusier réalise un autre bâtiment à Ahmedabad, c'est le musée que voici, qui est finalement, en 1951, le projet commence en 1951, l'accomplissement d'un projet de théorique qu'il a engagé en 1931. C'est en 1931, en effet, qu'il répond à un appel de la revue Cahiers d'art de Christian Zervos pour la création à Paris d'un musée des artistes vivants. Et c'est alors qu'il propose, pour la première fois, il en avait donné une version antérieure en forme de ziggourat en 1928. C'est la première fois qu'il le propose à plat, son musée en forme de spirale carrée, son musée à croissance illimitée, qui n'a pas de façade, son musée qui est censé se développer au rythme de ses collections autour d'un point central. Donc ça, c'est le dessin de 1931. La réalisation à Ahmedabad, que je vous montre ici, à Chandigarh et à Tokyo, que je ne vous montrerai pas, est toujours un peu décevante. Tokyo, des trois musées, est le plus raffiné, mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que la réalisation confirme le bien fondé du concept de Le Corbusier, qui par ailleurs n'a pas vraiment de programme. C'est un bâtiment pour lequel il n'y a pas de collection, qui est censé devenir un musée de la connaissance centré sur l'homme, l'art, les cultures populaires et les sciences. Le Corbusier est consultant pour le faire, c'est peut-être la chose la plus intéressante de ce projet. Le Corbusier consulte à Paris les directeurs du Musée de l'Homme, du Musée des Traditions Populaires et du Palais de la Découverte. Donc en fait, il est peut-être plus intéressant dans ce projet comme une sorte de curator que comme un projeteur. Voilà l'intérieur du musée avec ce grand patio et la partie centrale qui ensuite irrigue les galeries. Il y a même à un moment donné un projet de construction en aluminium pour ce bâtiment pour lequel Jean Prouvé est recruté. Alors, allons à Chandigarh maintenant avec Le Corbusier en 1950. Que se passe-t-il à Chandigarh ? Tout d'abord, un premier projet a été élaboré avant Le Corbusier, et c'est quelque chose que la légende corbusienne se plaît parfois à occulter, par Albert Meyer. Albert Meyer est un architecte new-yorkais qui, à New York, était lié au mouvement pour la cité-jardin pour le logement social. Il était ami de Clarence Stein, Henry Wright et aussi de Lewis Mumford. C'est donc un progressiste américain. Et il est symptomatique que les Indiens confient leur projet à un Américain comme lui ou ailleurs à Bhubaneswar, qui est une autre capitale nouvelle, à un Allemand qui s'appelle Königsberger, bref, qu'il ne laisse qu'une place assez limitée aux Anglais, même si des Anglais participeront à l'opération de Le Corbusier. Donc, le projet de Meyer est un projet que vous voyez ici de ville avec un centre central, un réseau de voies très hiérarchisé et une série de quartiers, un zonage avec des quartiers d'habitation. C'est le premier projet de Meyer. Meyer, qui n'est pas un architecte, s'accompagne pour développer ce projet d'un très talentueux concepteur, qui est un polono-américain du nom de Matthew Nowitzki, formé aux États-Unis et qui est allé par la suite en Pologne pour reconstruire la Pologne après la guerre, puis revenu aux États-Unis. Et vous voyez Nowitzki ici concevoir un centre, ce qui deviendra le Capitole dans le plan de Le Corbusier, qui est une espèce de quadrilatère avec des patios assez serrés, sans doute une meilleure idée que celle des grandes esplanades battues de soleil de Le Corbusier. Et vous le voyez, imaginez une architecture néo-traditionnelle pour les rues, avec ces dessins qui sont conservés à Chandigarh et que l'on trouve aussi. Malheureusement pour lui, Nowitzki se tue dans un accident d'avion en 1950, et les Indiens doivent, qui ne pensent pas que Meyer peut faire le projet tout seul, vont chercher une nouvelle équipe en Europe. Ils vont donc voir, ils vont en Angleterre, ils vont à Paris, ils rencontrent Le Corbusier, la scène est relatée par... ils le rencontrent avec Claudius Petit, qui est à l'époque le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. La scène est relatée par le fils de Claudius Petit, et Le Corbusier dit « J'accepte volontiers à une condition que vous recrutiez mon cousin et ex-associé Pierre Jeanneret qui n'a pas de travail. » C'est ainsi que la présence de Pierre Jeanneret, sur laquelle je reviendrai, devient une condition de ce projet de Chandigarh. Alors, Le Corbusier se met au travail très rapidement. Il critique le plan de Meyer, qui était notamment fondé sur l'application à l'Inde du modèle de l'unité de voisinage. L'unité de voisinage, c'est cette entité urbaine définie à partir de la proximité des habitations avec les équipements collectifs, qui a été inventée dans les années 20 par Clarence Perry, qui est un économiste actif au sein de l'équipe du plan régional de New York. L'unité de voisinage devient le principe de base de beaucoup des projets de la reconstruction en Angleterre et dans le nord de l'Europe. Marginalement, le thème est importé en France par Gaston Bardem, il est peu populaire en France, ça n'intéresse pas trop Le Corbusier. En tout cas, vous voyez ici le plan d'Albert Meyer, qui est une sorte qu'il intitule le super bloc, terminologie américaine, et qui comprend trois unités de voisinage combinées. Le Corbusier critique ce plan et répond à ce plan en créant des grands secteurs. Et vous voyez ici la comparaison entre le plan de Meyer, avec son centre central et un centre administratif qui n'est pas détaché, le projet de Le Corbusier dans lequel le centre administratif et politique, le Capitole, sort et dans lequel les composants sont beaucoup plus vastes. Le Corbusier dessine ce plan avec beaucoup de hargne. Il rapporte à sa, Il rapporte à son épouse Yvonne « En 8 jours, nous avons fait un plan d'urbanisme complet, mirobolant, qui retrouve les grandes traditions asiatiques et qui fournira les plus belles solutions architecturales. » N'oubliez pas qu'il est encore blessé par l'histoire des Nations Unies, hein, à New York. « Nous avons, écrit-il, nous avons écrasé l'Américain qui importait aux Indes des idées américaines que je réprouve. » Ce qui n'empêche pas de reprendre un certain nombre d'idées dans le découpage de Mayer. Alors, ce projet, comment est-il pensé? Il est pensé dans son site. Le site est un site tout à fait extraordinaire. Je vais y revenir. C'est un site plan, une plaine sur laquelle se trouvaient des villages, en dessous des monts Shivaliks, qui sont des contreforts de l'Himalaya, qui se trouvent pas très loin de là, vers le nord, vers le nord-ouest. Le Corbusier travaille, donc décrit ce paysage avec émotion. Nous sommes sur le terrain de notre ville, sous un ciel admirable, au milieu d'une campagne de tous les temps. Et il s'attache à dessiner cette campagne. Les villages sont si vieux qu'ils n'ont pas de date. On trouve les mêmes au centre de l'Afrique ou dans les oasis. Tout y est ensemble. Les hommes, les femmes, les enfants, les ânes, les vaches si belles, il aime beaucoup les vaches indiennes, les buffles, les chiens. Tout est calme, lent, harmonieux, aimable, et tous parlent à voix basse et modérée. Donc il y a là, chez lui, une grande attention à cette architecture vernaculaire, qu'elle soit capturée au niveau du sol, avec ses croquis, ou qu'elle soit vue depuis l'avion, puisqu'il prend souvent l'avion pour aller à Bombay ou Delhi. Vous voyez ici certains dessins de villages. Ici, à nouveau, une planche d'album dans laquelle on trouve à la fois les notations sur les habitations, sur les chameaux, des remarques sur le mode de vie quotidien indien. Il s'intéresse donc fortement au vernaculaire, ce qui se répercute moyennement dans ses directives pour les quartiers résidentiels, mais il s'intéresse aussi aux grandes compositions urbaines. Et ici, nous voyons deux compositions, deux plans qui confrontent le plan initial de Chandigarh, qui était assez compact et rectangulaire, le plan final qui est plus curviligne, plus organique, dans lequel le Capitole est plus différencié. Vous voyez les deux termes de comparaison, c'est assez révélateur. À gauche, c'est le plan de la Nouvelle Delhi de Lutyens, donc grand aménagement achevé en 1931 avec son grand axe, l'axe qui s'appelle le Kingsway, qui s'appelait le Kingsway sous les Anglais, maintenant le Rajpath, ici, et le palais du vice-roi que le Corbusier visite avec intérêt de Lutyens. Et ici, vous voyez la comparaison, c'est l'axe de Paris à l'étoile. Il compare la longueur de la ville avec l'axe qui va du Louvre à l'étoile. Le Louvre, les Tuileries, la Concorde, les Champs-Élysées. Donc, un double intérêt, le vernaculaire indien et les grandes compositions. Le Corbusier qui dessine le plan général, vous retrouvez donc cet axe nord-sud, je vais y revenir, voilà le Capitole et voici les secteurs différenciés fonctionnellement, le secteur commercial, le secteur de l'université, tous ces secteurs résidentiels, un peu d'industrie à l'est, au nord-est. Le Corbusier ne s'engage pas dans la construction des habitations, des commerces ou du campus, qu'il délègue à Jeanneret, qu'il a donc fait recruter, qui aura en charge l'ensemble des travaux jusqu'en 1965, et aux Britanniques Jane Drew et Maxwell Fry, qui ne passeront que quelques années plus tard. Donc, c'est sur le quartier des institutions gouvernementales qu'il va concentrer son attention et je dirais presque sa libido architecturale. Ça ne l'empêche pas de réfléchir au tracé des voies. Et le tracé des voies est assez intéressant puisque le Corbusier y applique un de ses slogans. J'ai déjà ironisé sur les nombres magiques, les 4 fonctions, les 5 points, etc. Ici, ce sont les 7 V, les 7 voies différenciées que le Corbusier différencie en 1945, les voies dont les plus rapides sont les autoroutes, dont les plus lentes sont les petits sentiers zigzagants au milieu des îlots. Il applique la même hiérarchie des voies, ce qui est après tout très banal en matière d'urbanisme. Il n'y a pas de quoi, je dirais, en faire un fromage. Tous les urbanistes faisant des plans de ville depuis le 19e siècle, depuis qu'on cesse de faire des damiers indifférenciés, font des voies hiérarchisées. Bon, le Corbusier en fait toute une histoire et donc il applique ce principe à Chandigarh avec une V1 qui est une autoroute qui traverse la ville, une V2 qui est le grand axe et puis des voies qui découpent les secteurs et qui sillonnent ces secteurs. J'en montrerai quelques-unes. Il concentre son attention sur le quartier gouvernemental, le Capitole, qui concentre les institutions du nouvel État, ou plutôt au demi-État de Pendjab, en travaillant à toutes les échelles du paysage d'ensemble aux édifices singuliers. Il y travaille pendant une quinzaine d'années, et il y travaille en regardant encore un autre aspect de l'Inde qui est tout à fait révélateur. Il découvre les jardins moghols. Donc il s'intéresse aux jardins moghols et même aux jardins néo-moghols, comme celui que Lutyens a composé pour le vice-roi à Delhi. Et il note « Le soleil se couche dans l'axe sur le canal. Partout reluisent l'eau, les bassins et les chemins d'eau. » Il est très, très, très attiré par l'esthétique des jardins moghols que Lutyens a reproduit. Et il la découvre dans ce jardin de Pinjora, à une heure de voiture de Chandigarh, sur le qu'il analyse dans le détail. Voilà ce jardin aujourd'hui, photographie d'il y a 2 ou 3 ans. Voilà le croquis de Le Corbusier, donc on retrouve l'idée de l'axe d'eau, des parties minérales, des parties aquatiques, des parties plantées, du rapport avec l'horizon montagneux. Vous voyez en bas, ce qui est tout à fait intéressant, qu'il y relève une séquence proche du modulor. Il relève une séquence proportionnelle qui lui semble refléter les proportions du modulor. Mais il y a autre chose. Il y a une réminiscence qui est importante ici que je voudrais souligner. Ces murs dressés et ces polygones dressés devant le profil des montagnes, c'est exactement ce qu'il avait dessiné à Tivoli, à la Villa d'Adrien, en 1911. Donc un des croquis les plus évidents dans son œuvre précoce pour comprendre toute la composition du Capitole de Chandigarh, c'est ce croquis de la Villa d'Adrien. C'est aussi, je n'y reviens pas dans le détail, c'est aussi ce dessin qu'il avait fait d'après Pietro Ligorio en s'intéressant, en dessinant, vous voyez, Rome, ville continue, comme si elle était faite d'édifices isolés. C'est ce qui est exactement ce qu'il fait. On est en 1915, ce qu'il fait, en gros, 35 ans plus tard, pour Chandigarh. Un dessin d'un album assez peu fréquemment publié montre le travail, donc la mise en place des édifices du centre gouvernemental sur la plaine. Et vous voyez ici son dessin en perspective. Le centre monumental est ici. Ici, c'est le centre commercial. Il note à propos des monts chivaliques que l'on voit dans les lointains, profil exact vu du centre civique fait sur place. Et dans une lettre à son ancienne maîtresse Margaret Harris, il présente à nouveau ce dispositif. Vous voyez ici, c'est une sorte de chère Marguerite, très poétique. Il présente, vous voyez, Chandigarh comme un damier avec une sorte de bousculade de bâtiment qui est le Capitole ici, calé contre l'horizon des montagnes. Et il signe d'un corbeau, comme il le faisait à l'époque. Donc, c'est une lettre assez touchante qui se trouve pas à la Fondation Le Corbusier, mais à Montréal. Il va aussi travailler sur le modelage du sol. Et là, je retrouve des considérations de paysage et notamment une investigation que j'avais entreprise il y a quelques années. Ce que l'on voit ici, c'est une maquette du centre qui est réalisée, du Capitole qui est réalisé à Chandigarh en 1955. On y trouve, regardez les bosses, les creux, les terre-pleins qui évoquent Pinjore, les jardins de Pinjore. Ici, la haute cour, je vais en parler. Ici, le secrétariat. Ici, l'assemblée. On peut rapprocher cette maquette d'une sculpture très particulière que Le Corbusier réalise en 1951 à Long Island, alors qu'il est en train de travailler alors qu'il passe à New York plutôt pour des expositions que pour la suite du projet des Nations Unies qui est oublié. Il retrouve Constantine Onivola, ce sculpteur sarde, avec lequel il réalise des sand casts, des reliefs dans le sable. Vous voyez comment c'est fait ? On creuse, on crée une forme concave dans le sable de la plage de Long Island. On coule du plâtre, on démoule le plâtre en faisant très attention et on obtient ce relief que l'on peut ensuite peindre. Vous voyez là, Le Corbusier déguisé en artiste en train de peindre ce relief. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à regarder ce relief, ce sandcast, par exemple, quand on le retourne, quand on le regarde verticalement, on y trouve une sorte de plan de ville. On y trouve exactement les configurations de hauteur qui sont celles de Chandigarh, ce que j'avais montré donc en 2013 en le rapprochant, vous voyez ici le sandcast et la maquette, en montrant qu'il y avait une très grande proximité entre les deux. Un autre aspect du travail sur le Capitole, c'est l'application des mesures, des proportions du modulor. Ici, une analyse qui en a été faite et qui est à prendre avec des pincettes. Quand on veut absolument trouver un tracé régulateur dans un dessin, on y arrive toujours. Ça, c'est mon expérience d'architecte qui parle. On peut toujours trouver quelque chose. Bon, là, c'est à peu près convaincant. Ce qui est plus, enfin, ce qui montre en tout cas qu'il y avait une intention, c'est ce qu'écrit Le Corbusier à nouveau à son épouse. Chandigarh sera la ville d'arbres, de fleurs et d'eau, de maisons, très jolie, aussi simple que celle du temps d'Homère et de quelques splendides édifices du plus haut modernisme où régnera la règle mathématique et très particulièrement le modulor, mesure, qui se vérifie en chaque chose bâtie ici par les simples comme par les grands. C'est quand même assez extraordinaire au passage de voir que ce personnage écrit à son épouse de façon aussi pompeuse et auto-célébrative. Mais il le dit assez clairement. Alors, voici ce que ça donne, deux panoramiques de Richard Pear qui nous montrent les étendues du Capitole il y a quelques années, le secrétariat, l'Assemblée, la Haute Cour, à nouveau l'Assemblée, la Haute Cour au fond, vue depuis le secrétariat ici. Donc, Le Corbusier se félicite dans cette histoire de la modestie de ses interlocuteurs, alors qu'il est encore blessé, il se perçoit encore comme une victime de l'Amérique. Je cite, « L'ingénieur en chef Varma, responsable des réalités sur le terrain, est un ange de douceur. » Et il dit, « Nous voulons une capitale de l'humilité, car les Indiens sont humbles. » Le Corbusier note, « Très touchant et en contraste avec l'arrogance de Wall Street. » Alors, parlons des bâtiments maintenant. Parlons des bâtiments. Des principaux bâtiments. Donc, d'une part, le premier, la Haute Cour, qui est inaugurée par Nehru en 1955 et qui est un geste politique intéressant. N'oublions pas que l'Inde reste la plus grande démocratie du monde. C'est aussi un état de droit. Et donc, l'importance symbolique de commencer la création d'une capitale coloniale par une Haute Cour où l'on plaide, où les Indiens peuvent plaider, c'est un geste très fort. Et vous voyez ici, à nouveau, d'autres croquis. Celui-ci est aussi un croquis peu publié qui montre à nouveau les Shivalis, puis ces montagnes totalement démesurées, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit, c'est une caricature, et vous voyez comment se déploie sur le terrain, devant cette sculpture de vache, la haute cour, le palais, c'est en fait le parlement d'ailleurs, l'assemblée, le palais du gouverneur sur lequel je vais revenir, et la main ouverte dont je parlerai le moins possible. Donc, ici une autre image qui nous montre à nouveau j'insiste sur cette persistance de ces éléments, à nouveau le placement des édifices, toujours la haute cour ici, le palais du gouverneur, les montagnes derrière, tout ceci vu depuis la haute cour, et à nouveau ici l'assemblée, le secrétariat, c'est-à-dire les bureaux dont je vais parler, et les montagnes toujours derrière. Dès les premiers croquis, et j'en reste à la haute cour, le bâtiment est pensé dans sa relation à la silhouette des monts Shivaliks, comme la villa Adriana par rapport au conning du Latium. Dans la version définitive, où l'orthogonalité est plus marquée que dans les versions intermédiaires, vous la voyez dessinée à gauche, toujours avec les montagnes, et ici construite, la façade est éclaire les bureaux à travers un brise-soleil complexe, c'est l'arrière, que je ne vous montre pas, où sont les bureaux. L'ouest, où sont disposées les 9 salles d'audience, s'ouvre sur l'esplanade, avec un niveau principal qui traverse et qui associe la salle des pas perdus à l'arrière. Donc on pourra le voir. Voilà ici donc une vue tangentielle de la façade ouest. Voilà le plan, les bureaux derrière et les salles d'audience, la grande salle d'audience, et ici cette traversée qui permet de ventiler le bâtiment. ici sans doute l'espace le plus beau, qui est la rampe et le grand hall traversant. Ce chantier de la cour est une expérience fondatrice pour Le Corbusier, qui découvre les conditions du travail quotidien des ouvrières et des ouvriers indiens. À nouveau, il écrit à Yvonne et aussi à sa mère. Il écrit la même chose. Le spectacle est extraordinaire, des équipes de femmes habillées des plus sauvages couleurs, celles qu'il essaye de retrouver ici, portent sur la tête dans des corbeilles la terre des fondations et se relaient dans une chaîne hallucinante. Pour le béton, de même, elles travaillent 12 heures et une forte cadence chantée et criée les anime. Mélange de machines et de main-d'œuvre innombrables, hommes et femmes au travail, gosses au milieu des gravats, campement nocturne entre deux murettes de 3 pieds de haut et sur une natte de jonc. Dans les rapports réguliers qu'il envoie à Paris, Pierre Jeanneret, donc, qui suit le chantier au quotidien, rencontre des contradictions de l'entreprise et notamment des réticences des Indiens devant la matérialité de l'édifice. Jeanneret écrit « La haute cour commence à prendre une belle allure dans le ciel du Capitole. Nous coulons actuellement l'extrémité du parasol dont nous sommes arrivés au plus haut point. Je frémis en attendant le décoffrage de ce fameux profil et je souhaite qu'il te donne satisfaction, dit-il à son cousin. Je suis constamment obligé d'entrer dans d'immenses colères car ils ne peuvent s'empêcher de faire certaines retouches au béton brut, spécialement avant l'arrivée d'une haute personnalité. » Je trouve ça moche. « J'aimerais que ce bâtiment reste brut de béton, sans double plafond, malgré toutes les inélégances de certaines solutions des ingénieurs, mais ceci demanderait certainement de grandes glaces à la place des vitrages de bois à petits carreaux, et cela est presque impossible pour les Indes. » Le Corbusier, quant à lui, c'est un bâtiment qui est très investi rhétoriquement. Au fond, à part Marseille, c'est le premier grand bâtiment que Le Corbusier réalise depuis une vingtaine d'années. Quand il l'achève, il n'a rien construit de grand depuis le centre Soyouz de Moscou qu'il n'a jamais vu achever. Donc on comprend son enthousiasme un peu naïf et un peu narcissique. Il écrit à sa maman « C'est une symphonie architecturale qui dépasse tous mes espoirs, qui éclate et se développe sous la lumière d'une façon inimaginable et inlassable. De près, de loin, c'est une surprise et provocation d'étonnement. C'est fait avec du béton brut, du canon à ciment. Le paysage tout autour est empoigné par l'architecture, adorable et grandiose. » Et immodeste, ajoute-t-il, c'est moi qui le dis, quand il ajoute « Depuis des siècles, on n'a pas vu ça. » Alors, deuxième bâtiment, c'est le secrétariat qui se trouve derrière, à une distance prudente de l'Assemblée, que l'on voit ici, qui est le bâtiment qui abrite du haut en bas de la hiérarchie l'administration des ministères du Pendjab, selon la bonne tradition établie sous l'Empire britannique. Le Corbusier, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne recycle pas avec le secrétariat ses projets de bureaux des années 30. Vous vous souvenez du gratte-ciel d'Alger ou du ministère de l'Éducation à Rio, ou vous vous souvenez encore des esquisses pour le siège des Nations Unies. Ce qu'il recycle, c'est le type de l'unité d'habitation, donc c'est le type du bâtiment d'habitation qu'il édifie en se vantant à nouveau de son étendue. Ici, 280 mètres de long, Marseille, 140, ce qui est une exagération, le bâtiment fait 254 mètres. Mais ce que j'appellerais cette unité d'administration linéaire rompt avec les édifices des bureaucraties coloniales et s'oppose aussi aux édifices de bureaux conventionnels. Elle affirme de manière très claire à l'extérieur la hiérarchie bureaucratique. Vous voyez ici comment le brise-soleil révèle la présence des ministres avec leurs grands bureaux à deux niveaux et la présence des employés de rang inférieur. Les loggias sont uniformément répétitives, à part certaines variations au niveau du rez-de-chaussée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la coupe, finalement, vous vous souvenez de la coupe de l'unité d'habitation avec ces deux logements emboîtés, la coupe n'est pas tout à fait la même, elle participe un peu de la même idée, l'idée de réaliser une rue de desserte tous les deux niveaux. Vous la voyez ici, et cette rue dessert des bureaux à un seul niveau et des grandes suites à double hauteur. Donc, ce qui est important ici, dans ce bâtiment, c'est à nouveau la question de la circulation, qui est un enjeu aussi important qu'il l'était pour le centre Soyouz de Moscou 25 ans plus tôt. Des solutions comparables sont d'ailleurs adoptées avec l'idée des rampes que vous voyez ici, des rampes agrafées, je dirais, à chacune des façades, abritées dans une enveloppe de béton percée de petites fenêtres ici. Le Corbusier considère qu'un système, dit-il, d'ascenseur à l'américaine, véritable hantise de l'Amérique, est totalement impensable, car les employés arrivent tous à la même heure. Donc, il explique, pour justifier la rampe, on a tenu compte du plaisir que les Indiens prennent à la marche à pied en imaginant des rampes douces extérieures, d'où l'on découvre des vues admirables sur la composition paysagiste et architecturale du Capitole. On a pu admettre que ces 3000 employés continueraient tout simplement ici leur promenade jusqu'à la porte de leur bureau une fois chaque matin. Donc ça, c'est une remarque importante. Et l'autre remarque que Le Corbusier fait, à nouveau dans une problématique de revanche, cette fois-ci, ce n'est pas une revanche sur les Nations Unies, c'est une revanche sur l'UNESCO, cette commande qu'il a perdue à cause de son attitude ronchon pendant l'histoire des Nations Unies. Il écrit, dans une lettre à son frère Albert Jeanneret, auquel il continue à écrire aussi régulièrement, à l'UNESCO, à Paris, « À l'UNESCO, ils crèvent de chaud. Ils m'ont répudié au dernier moment. Breuer et Zerfus, donc les deux architectes de l'UNESCO, ne connaissaient rien à ces problèmes. À Chandigarh, l'administration est pour mon palais des ministères, 4000 employés qui sont dans l'ombre et l'air frais à cette époque où l'on doit dormir sur les toits, sous les toits. » Le secrétariat est achevé et Le Corbusier en est assez fier. C'est alors un autre chantier qui commence, dont je ne parlerai pas ici, mais qui est très intéressant et dans lequel Jeanneret est occupé, c'est le chantier de la fabrication des dizaines, des milliers de sièges et de tables nécessaires à toute cette nouvelle bureaucratie qui aujourd'hui, qui volait ou achetait à bas prix à Chandigarh, inonde aujourd'hui les galeries des antiquaires après avoir été complètement refait. Donc il y a aussi une production de mobilier sur laquelle je n'ai pas le temps de parler, mais qui est importante pour comprendre que ce paysage bureaucratique était un paysage complet. Alors, autre bâtiment important, c'est l'Assemblée, qui manifeste la présence des législateurs du Punjab, avec une silhouette qui est plus complexe. Vous la voyez ici, elle joue avec les reliefs à l'horizon, sur ce dessin, vous le voyez. Elle abrite les deux chambres du Parlement de l'État, et c'est certainement l'édifice le plus complexe spatialement et techniquement de l'ensemble, par son portique, par sa toiture. Les sources utilisées par Le Corbusier sont intéressantes. Le Corbusier travaille à la fois sur certains édifices moghols, le fort rouge de Delhi, les formes étranges, c'est ce que vous voyez sur le dessin du milieu, des observatoires et des rampes et des escaliers des observatoires astronomiques, celui de Jaipur ou celui de Delhi. Il écrit à propos de l'observatoire de Delhi, dont il s'inspire, « Ces structures indiquent le chemin, lient les hommes au cosmos ». Donc à un moment où il s'intéresse beaucoup à la dimension du sacré, du mythe, c'est pour lui tout à fait important. Mais il s'intéresse aussi, c'est ce que vous voyez en bas, à ces tours de refroidissement des centrales électriques d'Ahmedabad. Et donc c'est de là qu'il extrait ces hyperboloïdes de révolution que vous voyez, cette hyperboloïde de révolution que vous voyez à droite. Où l'on pourrait aussi voir la référence à des formes de son Jura natal, notamment ces grands volumes qui, dans les fermes du Jura, servent de fumoir et dans lesquels on suspend la viande des cochons. Bon, voilà ce bâtiment ainsi réalisé. Vous le voyez avec son portique, le bloc carré, ses brise-soleil et la structure en hyperboloïde au milieu. Ici, le plus bel espace sans doute de tout Chandigarh, qui est cette salle hypostyle dans laquelle les rampes permettent l'accès, une magnifique promenade architecturale permettent l'accès à la salle des délibérations avec un éclairage extrêmement limité qui provient de ces fentes de lumière sur le côté. Ce thème qu'il utilise, vous vous en souvenez, à la tourette. Donc c'est un bâtiment dans lequel on trouve énormément de dimensions de la recherche de Corbusier, l'intérêt pour les structures historiques, l'intérêt pour les ouvrages d'ingénierie avec les hyperboloïdes, ce travail sur la lumière, la référence à l'Égypte avec l'idée de la salle hypostyle. C'est un bâtiment très coloré à l'intérieur. Si vous voulez, les déambulatoires, les halls sont assez sombres et assez sobres, et l'intérieur, tout d'un coup, éclate, explose de couleurs. Il est comme ça encore aujourd'hui. Un autre élément très coloré, c'est la porte en acier émaillé par laquelle l'assemblée s'ouvre sur l'esplanade. Et voilà, Le Corbusier utilise tout un bestiaire qui est ces animaux indiens qu'il découvre. Il utilise aussi le serpent, l'aigle. L'aigle, c'est l'aigle de Zarathoustra, ce livre de Nietzsche qu'il est en train de relire. Donc il utilise, il crée une espèce de petite ménagerie qui grouille sous l'image du soleil dans son cycle de 24 heures. C'est une espèce de sommation de tous les thèmes sur lesquels il travaille, notamment ceux qu'il publie dans les planches du poème de l'angle droit à l'époque. Voici quelques détails du bâtiment, et vous voyez notamment comment le profil de ce gigantesque acrotère du portique dérive, je crois qu'on peut le dire sans trop se tromper, du profil des cornes des zébus qu'il a rencontrées, comment par ailleurs d'autres formes viennent de sa réflexion, de la réflexion sculpturale qu'il mène par ailleurs. Le Corbusier ne parvient pas à réaliser le palais du gouverneur. Et ici, vous voyez un dessin qui est intéressant parce qu'il reprend la logique du jardin de Pinjor et aussi du Sandcast. C'est sans doute le dessin qui est le plus proche du Sandcast de 1951. Il ne le réalise pas, et c'est dommage, car c'était un bâtiment très intéressant dans la sédimentation de ses niveaux. Dans son ouverture, on y retrouve cette idée d'un volume extrêmement bien ventilé et assez compact, qui était l'idée de la Villa Chodan. Mais cette fois-ci, la référence n'est pas celle des Haveli ou des habitations, c'est bien plutôt celle des palais de Fatehpur Sikri, cette ville nouvelle moghole, cette capitale nouvelle construite au XVIe siècle. Le Corbusier n'y avait pas été, il avait failli y aller. Sa voiture était tombée en panne sur la route, mais il connaissait très bien par les publications cette architecture moghole, l'architecture de plateforme ouverte que l'on retrouve tout à fait dans le projet du palais du gouverneur. D'autres constructions sont réalisées par Le Corbusier, qui me semblent relativement moins importantes, notamment le monument de la main ouverte, ce monument de la main ouverte qui a une origine, qui n'est pas une origine indienne. Vous vous souvenez sans doute du monument que Le Corbusier avait étudié pour Paul Vaillant-Couturier en 1938. Ce monument était composé de manière tout à fait intéressante. C'était un assemblage de sculptures faisant face à la Nationale 7 au sud de Paris, et dans cet assemblage, on trouvait une main à demi ouverte, qui était à l'époque la main que Thorez avait tendue, je vous le disais, dans un discours très important aux travailleurs catholiques. Alors, la main est présente, elle change de nature dans cet après-guerre, et Le Corbusier, se défendant de tout engagement partisan explicite, je vous ai rappelé sa citation, il dit que toutes les couleurs, ça fait du blanc, il écrit en 52 à Claudius Petit, « J'ai eu un geste politique, mais c'est celui de la main ouverte. Le jour où l'un des deux partis qui divise le monde pour des intérêts de deux natures différentes, les Américains et les Russes, en gros, ont voulu m'obliger à prendre parti par devoir moral. Sur l'avion qui me conduisait à Bogota, j'ai dessiné la main ouverte. » Donc cette main ouverte qui est un symbole du don, de l'échange, il l'édifie comme une sorte de girouette ou de, si vous voulez, ou d'antenne radar, si on assimile le Capitole de Chandigarh à un gigantesque aéroport. La mise au point du monument est d'ailleurs un processus assez long. Il l'étudie à partir de 1953, concrètement. Il le valide sur le terrain, comme il l'annonce à Yvonne, à nouveau, très fièrement. « J'ai fait planté face à l'Himalaya, tout est face à l'Himalaya à Chandigarh, une maquette de la main ouverte de 18 mètres de haut et 11 mètres de large, ça se voit du bout du monde. » Et il fait pression, il n'avance guère sur ce chantier, il fait pression sur Jeanneret, il ne cesse d'engueuler son pauvre cousin. « Les plans définitifs de la main ouverte sont faits, fruit d'un inlassable travail. » Tu as généralement fait obstacle à cette sorte de chose, mais c'est moi qui ai été appelé à Chandigarh pour faire la ville et c'est moi qui lui donne sa main ouverte. Je compte donc sur ton amitié pour ne pas faire d'obstacle, puisque tu as la chance d'être sur place et que tu es apprécié de chacun là-bas. Il y a des rapports assez tendus. Placé, alors un autre petit édifice mystérieux, c'est cet édifice dit de la Tour des Ombres, qui est un des éléments qui matérialise le croisement des axes du Capitole, tout en jouant avec la symétrie. Le Corbusier l'a décrit comme une halle ouverte, très haute et ombragée, dont l'atmosphère sombre invite à la méditation. En termes architecturaux, je dirais que c'est plutôt une sorte de monument au brise-soleil inconnu, une sorte d'emboîtement de brise-soleil qui n'a guère d'usage, mais qui est un abri appréciable lorsque la plaine est brûlée par le soleil. Elle est implantée selon des principes astronomiques auxquels le Corbusier est attaché. Alors, concluons, le Corbusier n'est pas seul à Chandigarh. D'abord, il fait venir beaucoup de monde, ici Malraux, dans cette photographie en haut très intéressante où Malraux jette un œil extrêmement soupçonneux sur ses plans, et vous voyez en bas toute l'équipe avec le Corbusier, son cousin, Jane Drew et Maxwell Fry, les deux senior architects anglais, donc il y a un noyau d'Européens, puis des senior architects indiens, des junior architects, donc des dizaines de professionnels qui travaillent à tous ces bâtiments. Sur le plan tel qu'il est réalisé, le Corbusier, au fond, est responsable essentiellement du dessin d'ensemble, du Capitole et de deux bâtiments d'enseignement, plus le musée qui est semblable en gros à celui d'Ahmedabad. Pierre Jeanneret est beaucoup plus actif. Alors, comment tout cela s'arrange-t-il ? D'une part, le système des voies, vous en voyez ici certaines, est applique le principe des 7 V dont j'ai déjà parlé, mais le dessin des voies n'est réalisé ni par Jeanneret ni par Le Corbusier, et il faut évoquer une des personnes les plus importantes de tout le chantier de Chandigarh, qui est Randhawa, qui est un ingénieur paysagiste indien, et c'est en fait lui qui est véritablement, non pas simplement l'exécutant, mais le concepteur des espaces urbains de la ville. Espace urbain, c'est le centre commercial avec ses bâtiments à ossature de béton qui sont dessinés par Jeanneret. Les voici dans leur état actuel. Les secteurs d'habitation dessinés par Jeanneret ou par les Anglais et qui regroupent une hiérarchie assez complexe d'habitation. Donc je passe extrêmement vite pour vous donner une idée de ce qui semble parfois ressembler à une cité-jardin importée en Inde avec des arbres très généreux. Voilà des logements de fonctionnaires moyens. Aujourd'hui, la ville connaît un développement considérable grâce notamment à l'injection des salaires de la fonction publique et à la qualité de l'enseignement, mais ces ensembles sont toujours là. Donc, ensemble de logements pour les fonctionnaires hauts ou moyens, ensemble de logements beaucoup plus sévères et fermés pour des fonctionnaires de rang inférieur, ensemble de logements à rez-de-chaussée ou à deux niveaux pour les employés des catégories inférieures. Pierre Jeanneret réalise beaucoup de ses programmes d'habitation et aussi quelques bâtiments publics excellents, notamment la bibliothèque de l'université, que vous voyez en haut, qui est un très beau bâtiment avec une grande salle couverte et un brise-soleil très expressif. Le monument à Gandhi, qui est en quelque sorte sa réponse très modeste à la chapelle de Ronchamp. Le Corbusier dessine quelques projets qu'il ne réalise pas. Le plus intéressant, c'est celui des maisons pour les péons, c'est-à-dire pour la caste la plus basse des employés, des maisons à cour, sous ces voûtes qui reprennent celles de Jaoul, mais encore plus celles du projet d'habitation à patio de ferme à Cherchel. Donc ce projet n'est pas réalisé, c'est un projet tissulaire qui aurait été très intéressant. En revanche, Le Corbusier réalise, et c'est ma dernière image, deux écoles, l'école d'art et l'école d'architecture, qui sont des bâtiments assez simples par leur matériaux et par leur dessin, dans lequel il y a malgré tout un peu de l'invention dans le système des voûtes de béton. Donc c'est le projet le plus, je dirais, le plus tardif de Le Corbusier à Chandigarh. Je voudrais terminer en évoquant une correspondance de Le Corbusier à Jeanneret, car les deux cousins s'étaient séparés en 1940 lorsque Jeanneret avait rejoint la résistance et Le Corbusier Vichy. Jeanneret semble manquer de diligence aux yeux de Le Corbusier, qui ne perd pas une occasion pour récriminer. Je voudrais, pour vous mettre dans l'ambiance, lire un petit texte, un extrait un petit peu long, dans lequel Le Corbusier met au travail son cousin. Je cite. « Je suis obligé de continuer à grogner. On peut observer à Chandigarh que tous les chantiers de Pierre Jeanneret sont terminés très rapidement, que toutes les maisons de Pierre Jeanneret sont terminées très rapidement, que toutes les maisons de Pierre Jeanneret sont entourées de jardins parfaitement bien aménagés en fleurs, arbustes, etc. C'est très appréciable. Mais on peut observer que le Capitole, qui est dessiné depuis des années, c'est-à-dire mon projet, n'a pas un bout de gazon correct et sur toute sa surface n'a pas été jardiné. Il n'y a pas d'explication autre que le manque d'intérêt. Maintenant, dit-il à son cousin, tu es chef sur toute la ligne, en tant que chef commande. Tu as le droit de dire maintenant, j'exige. Tu as le droit de dire, Le Corbusier n'est pas un imbécile et on n'a pas le droit de laisser ses bâtiments dans la boue. Tu peux, en tant que chef, dire à qui tu voudras. Il faut jardiner ce parc, il faut terminer la V2 qui monte au sommet du Capitole, il faut ouvrir la fosse de la considération. À toi de faire un retour sur toi, sur toi-même, et de reconnaître que j'ai le droit de me plaindre. Donc Le Corbusier réalise son plus grand chantier et continue à se plaindre. Merci.